extrême. L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt.
Chers auditeurs d'Orient Extrême, vous connaissez la rengaine de chaque émission. Quand nous parlons d'actualité, nous parlons d'Église d'Asie. Évidemment, ces nouvelles sont tirées d'Église d'Asie, l'agence d'information de la Société des missions étrangères de Paris. Mais connaissez-vous vraiment Église d'Asie? Chez Église d'Asie et ici sur Orient Extrême, nous avons à cœur d'informer le public francophone sur l'actualité ecclésiale, sociale et interreligieuse des pays d'Asie. À l'invitation du pape François qui voulait promouvoir un journalisme de paix, nous avons le souci de la vérité de l'information, du dialogue et du respect. Rien que ça. En fait, depuis 360 ans, la Société des missions étrangères de Paris est présente avec ses missionnaires sur le continent asiatique et a acquis une connaissance précieuse de ces sociétés. En 1983, dans le souci de partager cette connaissance et de donner la parole aux chrétiens d'Asie, les MEP ont créé Église d'Asie, qui a acquis depuis une expertise reconnue dans ce domaine et est considérée comme une source d'information fiable et souvent inédite. Et chers auditeurs, nous retrouvons Olivier Labesse, qui justement travaille avec les MEP sur différentes fonctions, allant de la traduction au journalisme. Et bien sûr, Olivier, vous êtes l'homme derrière Église d'Asie. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Chers auditeurs, pas de point d'actualité aujourd'hui, car nous avons décidé avec Olivier de vous faire un résumé de l'actualité bien agitée en Asie de ces deux derniers mois, depuis le 1er janvier 2024, et ceci en 20 minutes. Est-ce que vous êtes prêt pour ce défi, Olivier?
Bien sûr.
Mais avant de commencer, est-ce que je peux vous laisser vous présenter un peu à nos auditeurs? Qui êtes-vous et quel est votre lien avec les MEP?
Oui, alors je m'occupe d'Église d'Asie, donc c'est l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Et nous publions plusieurs dépêches par semaine, dépêches d'actualité sur le site internet des MEP, avec aussi un dossier plus approfondi par semaine sur l'actualité d'un pays ou un thème d'actualité.
Chaque semaine, vous êtes donc la source de l'actualité d'Orient Extrême. Et vous, Olivier Labesse, quelles sont vos sources? Comment faites-vous votre veille médiatique?
Alors, on travaille déjà avec deux agences d'information anglophones, UK News et Asia News, dont on reprend régulièrement les articles. Ainsi qu'avec des pigistes francophones qui nous envoient leurs articles depuis le terrain, depuis l'Asie. Après, il y a aussi des rencontres avec des experts, des acteurs des églises en Asie qu'on rencontre régulièrement. Voilà.
Voilà, chers auditeurs, vous voyez d'où viennent nos informations. Et nous passons à la revue d'actualité d'Orient Extrême depuis ce 1er janvier 2024 en Asie. Revue d'actualité d'Orient Extrême avec Olivier Labesse et évidemment, comment ne pas commencer par Taïwan. Taïwan qui, comme vous le savez, est au milieu des tensions géopolitiques quand on parle de la Chine, qui menace notamment son indépendance depuis un certain temps. Taïwan donc qui a vu en ce début d'année de nouvelles élections et Olivier Labesse, vous nous emmenez avec Isabelle Feng.
Tout à fait, le mois dernier, nous avons déjà publié un dossier sur l'actualité taïwanaise. Quelques semaines après les élections présidentielles du 13 janvier, et au cours de ces élections, il y a un candidat pro-autonomie qui a été élu, appelé William Lai, du parti DPP, le parti démocrate progressiste. Et on parle ici plus d'autonomie que d'indépendance, parce que les élus taïwanais ont tendance à éviter de déclarer l'indépendance officiellement, ce qui causerait l'augmentation des tensions. Et donc ils préfèrent maintenir le statu quo des relations entre l'île et la Chine, alors que la Chine revendique Taïwan comme une province chinoise, comme on sait. Donc, voilà, et donc, pour Église d'Asie, on a rencontré Isabelle Feng, qui s'est rendue pendant plusieurs mois l'an dernier à Taïwan. Et donc, elle a pu observer Taïwan en tant que chinoise d'origine de Chine continentale. Et donc, elle est intervenue récemment durant une conférence à Paris sur le thème Taïwan, une élection sous l'œil de Pékin. Et elle explique que, dans l'esprit des Taïwanais, la Chine occupe une place beaucoup moindre que ce qu'on peut imaginer de loin, de vue de France. Elle explique par exemple que, durant son séjour, elle a rencontré une dame âgée dans un restaurant de Taipei, où elle l'a interrogée sur une possible attaque des communistes chinois à Taïwan. Et cette Taïwanaise a réagi en riant et en répondant, je cite, « Cela fait 70 ans que l'on en parle, mais ils ne sont jamais venus ».
Isabelle Feng, dont on parle, est juriste au Centre Perelman de philosophie du droit de l'Université libre de Bruxelles et elle est au Asia Center à Paris. Elle fait également partie de l'équipe d'experts du projet China Horizon piloté par la Commission européenne et s'est donc adressée à Orient Extrême dans un entretien.
Voilà, dans cet autre entretien, Isabelle Cheng, décrit aussi une vraie liberté constatée au quotidien. À Taïwan, elle fait un contraste net entre la Chine communiste où elle a grandi et la vie qu'elle a découverte à Taipei. Donc elle affirme avoir l'impression que pour elle, Taïwan est, je cite, la vraie société chinoise, celle qui n'a pas été dévastée par le communisme. Donc elle se dit frappée par une vie religieuse très riche et libre, entre les nombreuses églises et temples de Taipei qu'elle a observées. Et elle reconnaît malgré tout, bien sûr, que les tensions augmentent et existent dans le détroit de Taïwan entre Pékin et Taipei, mais c'est pour cette raison, explique-t-elle, que le gouvernement taïwanais, y compris le camp pro-autonomie, a l'intention de maintenir le statu quo actuel. C'est-à-dire que le président nouvellement élu, William Lai, a promis durant sa campagne de ne changer ni la constitution, ni le drapeau, ni le nom officiel du pays. Si son parti bénéficie du soutien de Washington, d'ailleurs, c'est aussi sous cette condition de maintenir le statu quo.
Isabelle Cheng donc observe la liberté religieuse à Taïwan. Et justement, vous avez pu réaliser une interview du père Autrit Chan, le secrétaire général de la Conférence épiscopale régionale chinoise, qui est le nom officiel de la Conférence des évêques catholiques de Taïwan. Qu'est-ce qu'il s'est dit dans cet entretien ?
Alors, dans cet entretien, le père Autrit Chan évoque les enjeux majeurs du scrutin présidentiel qui a eu lieu en janvier à Taïwan, dont on a parlé, et il décrit aussi la situation de l'église locale. Donc, pour lui, les élections présidentielles ont marqué un tournant décisif dans le monde politique à Taïwan. Il explique qu'aujourd'hui, avec les résultats de ce scrutin, il n'y a plus seulement une seule force politique dominante à Taïwan, comme c'était le cas avant. Il parle d'un côté du nouveau président William Lai, pro-autonomie, et de l'autre, le parti KMT ou parti Kuomintang, qui est le plus ancien politique présent à Taïwan et qui l'a emporté majoritairement au sein du corps législatif.
Et selon le père Chan, quel est l'objectif du parti du président William Lai?
Alors, l'objectif du parti, c'est du parti DPP, c'est l'autodétermination de Taïwan face à la Chine. Pour le père Chan, cela correspond à la volonté de la majorité des Taïwanais. Cela s'est d'ailleurs confirmé dans les résultats des élections présidentielles avec la victoire du candidat pour autonomie.
Bien sûr.
Voilà, mais d'un autre côté, les législateurs du parti KMT, le corps législatif de Taïwan peut devenir un moyen privilégié pour poursuivre l'objectif qui est au contraire d'améliorer les relations sino-taïwanaises et la situation économique. Étant donné qu'ils ont la majorité
au Parlement.
Voilà. Donc le prêtre taïwanais explique que le parti DPP a considérablement perdu de son influence sur le peuple taïwanais, d'où ce rééquilibrage du pouvoir politique qui s'est traduit dans les élections. Et selon le père Chan, c'est peut-être mieux ainsi pour qu'il y ait moins de confrontations et plus de dialogue et de collaboration au sein du gouvernement taïwanais. Il ajoute qu'il espère aussi qu'avec cette composition nouvelle, les relations sino-taïwanaises se stabilisent dans un avenir proche dans le but de réduire les risques d'un conflit régional.
Il a aussi évoqué les échanges entre l'église locale et le gouvernement taïwanais. Quelles sont ses conclusions ?
Alors déjà, il estime que l'église catholique à Taïwan doit pouvoir être en mesure de dialoguer avec les principaux partis politiques sur certaines questions importantes. Il cite notamment des questions comme le respect de la vie depuis la conception jusqu'à la mort naturelle, la dignité humaine, la présence de l'Église dans différents secteurs comme l'éducation et la santé, ou encore la liberté religieuse. Il parle plus spécifiquement du droit des travailleurs étrangers de pouvoir se rendre dans les lieux de culte au moment voulu, sachant qu'il y a par exemple beaucoup de Philippins, d'immigrants philippins à Taipei ou à Taïwan, qui sont majoritairement catholiques. Le père Chan a aussi évoqué le 80e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vatican et Taïwan. Un anniversaire qui a été célébré l'an dernier avec le chargé d'affaires de la nonciature apostolique à Taipei, qui est Monseigneur Stefano Mazzotti. Et le prêtre taïwanais ajoute que les relations entre le Vatican et les autorités de Taipei ont toujours été bonnes. Il assure que les relations sont excellentes. Il explique notamment que le ministère des Affaires étrangères de Taïwan invite régulièrement des prélats du Saint-Siège à Taïwan, des conférences relatives à la foi ou la mission catholique. Et lorsqu'un évêque, un prêtre ou un délégué laïque se rend au Vatican, il est toujours bien accueilli et accompagné par l'ambassade de Taïwan près le Saint-Siège.
Et le 10 février avait eu lieu le Nouvel An asiatique. Ce que j'aime beaucoup, Olivier, dans vos revues d'actualité, c'est que vous prenez le temps de nous expliquer ce dont il s'agit, avant d'introduire un fait ou un entretien inédit. Et là, vous avez justement réalisé un entretien sur le sujet que l'on considère, à savoir le Nouvel An du Tet, et c'est le père Paul Han que vous avez rencontré.
Tout à fait, il est recteur de Notre-Dame de Chine à Paris, dans le 13e. Et le 11 février, ils ont célébré le Notre-Dame, le Nouvel An asiatique, avec la communauté chinoise catholique à Paris, ainsi qu'avec des paroissiens vietnamiens. La célébration a eu lieu dans l'église Saint-Hippolyte, qui est l'église voisine de l'église Notre-Dame de Chine. Mmh. Et voilà, la messe s'est déroulée de façon trilingue, en français, vietnamien et chinois. Et je précise d'abord que cette église Notre-Dame de Chine a été inaugurée, consacrée en 2005, dans un quartier, évidemment, où les communautés chinoises et asiatiques sont particulièrement présentes. Et tous les dimanches, il y a environ 260 paroissiens chinois qui célèbrent la messe en mandarin. Et pour le Nouvel An asiatique, tous les ans, il y a une messe qui est organisée dans l'église voisine Saint-Hippolyte. Donc c'est un clocher Saint-Hippolyte qui représente un lieu d'accueil et de rencontre entre les populations francophones et chinoises.
Pour nos auditeurs qui connaissent Saint-Hippolyte et qui fréquentent Saint-Hippolyte.
Voilà. Et cette année, le Père Chan explique qu'ils ont célébré le Nouvel An asiatique durant 15 jours, entre le 10 février et le 25 février, sachant que le 10 février est le jour de l'an, et le 25 est le jour de la pleine lune, correspond à la fête des lanternes, donc c'est la clôture du festival. Et pour le Père Paul Han, pour les Chinois, culturellement et traditionnellement, le Nouvel An est la plus grande fête de l'année. Donc il explique que les membres de la famille se réunissent, ce qui provoque des déplacements énormes pour un pays qui compte 1,4 milliard d'habitants. Donc ceux qui sont loin pour le travail et les études essayent de revenir dans leur village d'origine.
Cette fête a beaucoup de sens pour les catholiques chinois, par exemple.
Voilà, durant notre entretien, le Père Chan a expliqué que pour les catholiques chinois, ils essayent de trouver effectivement un sens particulier en rapport avec leur foi. Et le 9 février, la veille du Nouvel An, ils ont célébré une messe d'action de grâce, pour l'année écoulée, pour remercier tout ce qui a été reçu et vécu durant l'année. Et le lendemain, ils confient aussi l'année à venir dans les mains du Seigneur en évoquant les peines personnelles, familiales, paroissiales, ecclésiales, mais aussi mondiales. D'ailleurs, à ce propos, le Père Paul Han ajoute qu'à l'occasion du Nouvel An chinois, je cite, « Nous demandons la grâce pour ce monde blessé, par les catastrophes, les guerres et les conflits, c'est notre manière de vivre le Nouvel An dans la foi. »
Tout ce que nous disons aujourd'hui, chers auditeurs, vous pouvez le retrouver sur le site des Missions étrangères, missionsétrangères.com, en cliquant sur l'onglet Église d'Asie. Et pour le moment, puisque nous parlions de Nouvel An asiatique, je vous propose d'écouter une musique qui s'appelle New Year's Come, en vietnamien, qui nous parle du Nouvel An justement. Chers auditeurs, vous êtes sur Orient Extrême pour la revue d'actualité depuis le 1er janvier 2024 et nous sommes en compagnie d'Olivier Labesse, journaliste chez Église d'Asie. Et nous allons parler de Birmanie. Birmanie, Olivier, il faut que vous sachiez que j'ai promis, lors d'une émission sur la Birmanie, à tenir nos auditeurs informés sur l'évolution de la situation en Birmanie. Finalement, c'est vous qui me tenez informé, c'est moi qui les tiens informés, tout va bien. Alors que la guerre fait rage depuis 3 ans maintenant, Olivier, vous nous emmenez en reportage en territoire Karenie, dans le nord de la Birmanie.
Oui, nous avons été en contact avec une journaliste française qui a effectué un reportage en terre Karenie, près de la frontière thaïlandaise, en Birmanie, et dans son reportage, elle explique que depuis quelques mois, les forces rebelles du pays gagnent du terrain et que la junte birmane n'a jamais été aussi affaiblie. Mais elle parle aussi de l'après-guerre. En cas de chute de la junte, l'objectif pour beaucoup de groupes birmans serait d'instaurer un modèle de gouvernance fédérale. L'idée étant que ce gouvernement fédéral puisse convenir à plus de 140 groupes ethniques présents dans le pays. Donc c'est une question qui est loin d'être résolue. Et par ailleurs, au-delà de cette utopie fédérale, la journaliste souligne que la multiplication des groupes et groupuscules armés dans tout le pays fait craindre une explosion de la situation.
Elle dit notamment cette citation, le problème avec les Birmans, c'est qu'avec 2 personnes, on est capable de faire 3 groupes.
Voilà, là, elle cite le lieutenant d'un groupe insurgé qui ajoute que pour l'instant, il n'y a pas trop de problèmes parce que tout le monde est uni contre les forces de la junte et veut les voir tomber. Mais ensuite, si cela arrive, ce lieutenant ajoute que, je cite, « les alliances actuelles risquent d'être plus fragiles par la suite ». C'est pourquoi il reconnaît que le risque de l'implosion du pays après la guerre est réel.
Que peut-on faire pour éviter cette implosion ?
Alors, la journaliste qui se fait appeler Claire Lapierre a décrit une expression qui circule parmi les cercles académiques birmans. Elle parle du modèle du mandala, une structure de gouvernance propre à l'Asie du Sud, composée à l'image du symbole bouddhique d'une multitude de points et de cercles. Et alors, selon cette structure, le pouvoir doit reposer avant tout sur des structures ultra-locales et sur un jeu constant d'une multitude d'alliances afin de créer un équilibre. Ce modèle serait particulièrement adapté à la Birmanie, sachant que le but est de faire une large place aux pouvoirs locaux dans le contexte d'un grand nombre de groupes ethniques présents en Birmanie. Et pour les Birmans, dans ce contexte, il ne serait pas envisageable de calquer un modèle de démocratie à l'occidentale, plus conçu pour des pays très homogènes au niveau ethnique et culturel.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc dans son reportage, il y a aussi un accent qui est mis sur l'éducation, qui a reculé en 5 ans, d'abord avec 2 ans de pandémie, puis avec 3 ans de guerre civile, après le coup d'État. Et la journaliste cite une agriculture qui vit dans un camp de réfugiés et qui raconte qu'ils avaient déjà tout perdu avec le Covid et qu'avec la guerre qui a éclaté, ils se sont retrouvés avec des enfants de 10 ans qui ne savent pas lire en l'absence de professeurs qui sont partis grossir les rangs du mouvement des obéissances civiles.
Double peine, donc. Voilà. Alors, nous quittons la Birmanie et la guerre et nous partons à Hong Kong dans un contexte de durcissement de la législation après la prise du contrôle par la Chine. On se souvient de l'affaire Jimmy Lai dont vous allez nous rappeler les faits, Olivier. Et vous nous parlez d'un crucifix un peu spécial.
Oui, alors je rappelle que Jimmy Lai est un entrepreneur hongkongais qui a fondé le quotidien pro-démocratie Apple Daily, qui a été fermé par les autorités hongkongaises en 2021. Dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale, une loi imposée par Pékin en 2020. Et depuis 2022, Jimmy Lai était emprisonné. Et depuis sa prison, il s'est effectivement mis à peindre des œuvres sur divers thèmes religieux, en irritant au passage les autorités locales. Et parmi ses œuvres, il a peint un tableau qui représente un Christ en croix, qui a été exposé à Washington, à l'Université catholique de Washington. Donc c'est... Je précise que il y a un procès en cours qui a débuté en décembre et qui se poursuit toujours, et au cours duquel Jimmy Lai risque la prison à vie dans le cadre d'un procès qui est considéré d'ailleurs comme de plus en plus grotesque par certains. Et pour beaucoup, ce tableau qu'il a peint est un témoignage de foi déjà de ce patron de presse, mais aussi de la foi de nombreux militants pro-démocratie à Hong Kong. Je peux citer par exemple la jeune Agnès Cho, qui est actuellement réfugiée au Canada, Donc voilà, c'est...
Oui, Yann Deschaux qui avait disparu, mais qui va bien. Et voilà. Nous descendons encore au sud, après la Birmanie et Hong Kong, et cette fois-ci au Vietnam. La grande actualité religieuse du Vietnam, c'est l'installation de ce premier représentant pontifical, Mgr Marek Zalewski. C'est un prélat de 61 ans qui avait été nommé nonce apostolique au Zimbabwe en 2014, puis transféré en 2018 à la nonciature apostolique de Singapour, où il avait reçu également la fonction de représentant pontifical non résident pour le Vietnam. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de Mgr Marek Zalewski, cher Olivier ?
Alors, son arrivée à Hanoï, la capitale vietnamienne, a été annoncée le 30 janvier par le président de la conférence des évêques de Vietnam, qui est Mgr Joseph Nguyen Nang. Et Mgr Zalewski est arrivé le 31 janvier à Hanoï. Et le président des évêques du Vietnam a précisé qu'il résidera temporairement dans un hôtel de Hanoï parce que, en attendant l'ouverture d'un bureau officiel.
Qui ne devrait pas tarder.
Voilà. Alors, son arrivée survient presque 50 ans après la rupture des liens mutuels entre le Vatican et le gouvernement communiste, sachant que 9 délégués apostoliques ont été nommés par le Vatican entre 1925 et 1975. Le premier était basé dans la ville de Hue, dans le centre du Vietnam. Puis le bureau s'est déplacé à Hanoï, dans le nord. Et le dernier était le Mgr Henri Lemaître, qui a été expulsé du Sud-Vietnam en 1975, au moment de la réunification sous le gouvernement communiste.
Alors donc, depuis 1975, il ne s'est rien passé. De quand date l'accord avec le Saint-Siège et le Vietnam ?
Alors en juillet dernier, en 2023, il y a eu effectivement un accord qui a été signé entre le président vietnamien et le pape François au Vatican. Les deux se sont rencontrés, ils ont décidé de la nomination d'un représentant pontifical résident et l'ouverture d'un bureau officiel. Donc c'est une première qui ne correspond pas à l'ouverture de relations diplomatiques officielles, mais qui représente une réelle avancée.
Et maintenant, nous passons du Vietnam en Inde. En Inde, souvenez-vous de ce temple au cœur d'une polémique qui durait depuis au moins 3 ans. Un temple géant dédié à la divinité Ram qui a été inauguré à Ayodhya.
Oui, cette inauguration a lieu le 22 janvier dans l'état de l'Uttar Pradesh, qui est à peu près à 500 km à l'est de New Delhi, dans le nord de l'Inde. Et... l'inauguration a eu lieu en présence du Premier ministre indien, Narendra Modi. C'est un nouveau temple dont la construction n'est pas terminée et qui est situé sur un terrain longtemps disputé avec la communauté musulmane. Il faut rappeler que le site du nouveau temple d'Ayodhya a été construit sur une mosquée détruite en 92 par une foule hindoue. Et cette mosquée était elle-même construite sur un ancien temple hindou construit au XVIe siècle. Donc effectivement, c'est un temple, un site contesté de longue date. Et en novembre 2019, la Cour suprême indienne a autorisé la construction d'un nouveau temple hindou sur les décombres de la mosquée détruite, et dont la première pierre a été posée en 2020 par Modi lui-même.
C'est un geste politique de la part du BJP.
Voilà, on a été en contact avec un spécialiste de l'hindouisme, un interlocuteur local, qui nous parlait avant l'événement en disant que, je cite, « Au moment le plus sacré de cette célébration, c'est la politique qui va dominer. Pour lui, cette inauguration marque symboliquement la volonté de Narendra Modi, le Premier ministre, et son parti pro-hindou du BJP, de se poser en chaise spirituelle de l'hindouisme. » Voilà, donc c'est une inauguration qui représente une victoire symbolique du nationalisme hindou. Et cet interlocuteur ajoute que pour les nationalistes hindous, cela fait 1000 ans qu'ils attendent la reconstruction de ce temple. Donc c'est des événements qui ont créé une vraie polarisation en Inde. Et lui, il regrette les objectifs nationalistes hindous qui sont de faire de l'Inde un pays exclusivement hindou. Alors que lui pense que c'est vraiment totalement opposé à la vision de Gandhi, Mahatma Gandhi, et il pose la question, qu'est-ce qui reste de l'hindouisme de Gandhi ? Il ajoute en disant, l'Inde ne peut pas être uniforme, unicolore. Toute cette noblesse en est allée, lui est un véritable effondrement de l'intelligence.
Et que peut dire l'Église catholique de son côté ?
Alors lui, il estime que de son côté, l'Église ne peut rien dire et les musulmans non plus. Mmh. C'est quelque chose qui peut se résoudre au sein de l'hindouisme. Et il décide d'ailleurs des contestations au sein de l'hindouisme où il voit des signes d'espérance.
Tant d'espérance, merci. Merci, cher Olivier, d'être venu nous présenter Église d'Asie et l'actualité, non seulement du Vietnam, de Hong Kong, mais aussi de Taïwan et de la Chine. Et en bref, depuis ce début d'année 2024, nous prévoyons de vous faire le prochain résumé de l'actualité asiatique dans 2 mois. Il y aura eu les élections russes, indiennes, les élections au Sri Lanka et plein d'autres événements que nous ne connaissons pas encore, puisque nous n'avons pas de boule de cristal. Et vous, chers auditeurs, si vous n'avez pas de boule de cristal à nous prêter, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.